on est tous éditeurs en France dans la situation où des livres juste parus vont sinon se retrouver dans un tunnel où ils risquent d'être un peu oubliés pendant les 2, 3, 4 semaines, bref, qu'on va passer en confinement. Et c'est pourquoi nous avons eu déjà un certain nombre de parutions depuis le début de l'année. Ces trois-là, plus précisément, elles étaient vraiment dispo que depuis le début mars. Et elles ont eu à peine le temps d'aller en librairie que les librairies ont fermé, ce qui nous désolait un petit peu. Et c'est pourquoi nous souhaitions évidemment mettre un petit peu d'éclairage sur ces trois livres. Pour lire le livre, il faudra soit le lire en papier si on a eu la chance de l'acheter avant que tout ne ferme, soit le lire en version numérique, puisque là on va le mettre incessamment sous peu en version numérique téléchargeable de manière payante, enfin, c'est moins cher qu'un livre papier évidemment, sur les plateformes de livres numériques que nous alimentons aussi lorsqu'il s'agit de livres de littérature comme celui-là. Voilà. Mais malheureusement, on ne pourra pas l'acheter avant la réouverture des librairies. Sinon.
Ah oui, on ne peut pas le commander sur votre site web, en fait.
On peut le commander, mais après, vous savez bien que la poste ne répond quasi plus. Donc ouais. Même si on peut le commander sur notre site aussi, qui est effectivement, on a un site marchand, l'envoi postal n'est toujours pas garanti aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, c'est une situation quand même un petit peu compliquée pour les maisons d'édition. Hein.
Alors donc le premier, alors c'est Ma foi en mer d'Iroise, donc de Claire Fourier. Donc c'est pas vraiment une autobiographie, c'est pas vraiment un roman, qu'est-ce que c'est ?
Claire Fourier, c'est une grande écrivaine qui est à cheval entre la Bretagne d'où elle vient, le Finistère Nord, et Paris, où elle vit encore aujourd'hui aussi, et qui est une ancienne bibliothécaire d'ailleurs, et quelqu'un qui a travaillé longtemps dans le domaine de la documentation, qui a une culture livresque énorme, qui a commencé à faire des romans et des livres, un petit peu toujours d'autofiction, on va dire, depuis les années déjà 95, 96, chez Actes Sud, chez Partilla, chez plusieurs éditeurs, et puis en Bretagne, aux éditions Dialogue, par exemple, donc, qui dépend de la librairie Dialogue. Elle a eu beaucoup de prix aussi pour tous ses livres. Elle a eu le prix du roman de la ville de Carhaix, là, pour le salon de Carhaix qui se déroule tous les ans à l'automne, le prix de la ville de Vannes, pour le prix Bretagne général pour l'ensemble de son œuvre en 2012. Donc vraiment, c'est une écrivaine assez connue. On est très fiers qu'elle nous ait confié ce texte « Sémaphore en mer d'Iroise » à publier. Et voilà, donc c'est une dame en plus qui est pétillante, qui est amusante, très cultivée, mais qui sait aussi intéresser tous les lecteurs, quel que soit leur a priori sur la littérature.
Dans la même collection, vous avez un autre livre. Alors là, c'est peut-être plus proche, on va dire, du carnet de voyage poétique. Enfin, c'est Bernard Bérou, Belvédère.
Oui. Alors là aussi, on est toujours dans la collection qui s'appelle chez nous L'Esprit des lieux. Il y avait déjà eu un livre de Bernard Bérou, d'ailleurs, sur la baie d'Audierne, qu'il connaît très bien. Là, lui, il est de Pinmar, Bernard. Et cette fois, il nous emmène dans des belvédères, ça veut dire des lieux d'où on peut avoir une belle vue, n'est-ce pas ? C'est ça que ça veut dire au départ. Qui sont des lieux physiques, évidemment. Il prend des petits villages perdus de Bretagne. Il prend Le Juc, pour ceux qui connaissent, à côté de Dornenay. Il prend Pemrit, dans le pays Bigoudin, mais il prend aussi tel ou tel village dans les Monts d'Arrée, ou même encore un peu plus loin. Et puis, il va prendre des lieux en Irlande, en Espagne, au Portugal aussi, parce qu'il a beaucoup voyagé. Et je pense d'ailleurs à un livre qu'il a publié chez nous, déjà sur l'Irlande, qui est magnifique. Et donc, à chaque fois, il fait 2, 4, 8, 10 pages sur ce lieu-là. En quoi il ressent ce lieu-là d'une manière particulière. Donc déjà, c'est intéressant, j'allais dire, comme livre presque de voyage. Et puis après, il agrémente ses pérégrinations, lui qui est un grand marcheur géographique, par des incursions un peu plus mentales. Quoi. C'est-à-dire que finalement, il s'en va sur le continent Kafka, sur le continent Julien Gracq, et il nous apporte aussi... ses sensations sur ses lectures ou son rapport à la peinture aussi, à l'art. Il a été un proche d'un très grand artiste décédé aujourd'hui qui s'appelait Jean Bazaine et qui a fait des magnifiques vitraux notamment, qui a été un grand artiste non figuratif hein, du XXe siècle. Et voilà, donc il nous parle de Bazaine aussi. En fait, il nous parle de ses propres belvédères à lui et puis ça fait une galerie comme ça de textes courts qui sont très agréables à lire parce qu'il a une magnifique écriture.
Et puis enfin, un voyage dans l'histoire plutôt, alors en compagnie d'un résistant quimpérois qui vient juste de disparaître, mais qui n'était vraiment pas très connu. Alors en plus, il s'appelait Laval, mais lui, il était résistant.
C'est ça, c'est un peu l'ambiguïté du titre, on a fait un peu exprès, n'est-ce pas? Mais oui, Maurice Laval était un résistant de la première heure, lui. Rien à voir avec l'autre Laval, qui a été un politicien, qui s'est illustré dans la collaboration. Maurice Laval, en fait, avant-guerre, il a été communiste, trotskiste, il était engagé dans un certain nombre de mouvements, et puis, évidemment, dès que la guerre survient, il est un des premiers à être dans les mouvements de résistance, avec sa femme aussi, qui est d'ailleurs juive, et tous les deux seront arrêtés par un beau jour de 43, déportés, et tous les deux en reviendront, heureusement, mais évidemment marqués à vie par cette expérience. Il en parle dans ce petit livre-là, c'est très impressionnant ce qu'il peut dire. Surtout que lui, il a dû, malheureusement, à la toute fin de la guerre, faire du tourisme concentrationnaire, c'est comme ça qu'il appelle ça, avec un certain humour. Puisqu'il a été trimballé d'un camp à l'autre jusqu'à être enfin libéré. Et puis après la guerre, il a eu une grande carrière dans la presse. Il est un des fondateurs du Nouvel Observateur, par exemple, mais aussi de revues comme le 50 millions de consommateurs, ça s'appelait comme ça à l'époque, 50, aujourd'hui ça s'appelle 60 millions de consommateurs. Et il a eu un parcours politique aussi, il a été élu, ou en tout cas il a gravité autour d'un certain nombre de partis politiques, plutôt à gauche, on va dire autour du PS, qui ne s'appelait même pas le PS encore à ce moment-là, dans les années 50, 60, etc.